Bonsoir et merci de vous savoir nombreux pour suivre l'émission Tribune de la Presse pour ce soir. Trois thèmes, comme d'habitude, ont été retenus pour vous, à savoir, dans un rapport publié mercredi dernier, les Nations Unies dénoncent des irrégularités graves dans le procès de Serge Maheshe, journaliste de Radio Okapi, assassiné à Bukavu en juillet 2007. Nous parlerons aussi de l'an 1 de l'assassinat de Didac Namujimbo, et notre journaliste de Radio Okapi, assassiné le 21 novembre 2008. Arrestation mardi dernier en Allemagne d'Ignacio Mubanashaka, chef de rebelle rwandais FDLR, c'est notre deuxième thème de ce soir. Et notre dernier thème nous conduira dans les mines avec la fin du processus des révisitations des contrats miniers en RDC. Selon le ministre des Mines, ce processus va rapporter plus de 300 millions de dollars à l'État congolais avant le début de l'exploitation. Pour en parler dans cette émission avec moi, Martial Ngoï, directeur et éditeur du journal La Prospérité, un quotidien parution à Kinshasa, Jules Mwamba, journaliste à Haga Télévision, une chaîne de télévision privée émettant depuis Kinshasa. Avant notre débat de ce soir, voyons comment les journaux quinois ont analysé les trois thèmes retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. Parmi les sujets retenus pour cette revue de la presse, la tempête des tropiques faisant allusion au procès Serge Maheshe signale plusieurs irrégularités relevées par les Nations Unies. Selon ce journal, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce le refus de la Cour militaire d'explorer d'autres pistes et mobiles de l'assassinat de l'ancien secrétaire de rédaction de Radio Okapi à Bukavu. Ce journal précise aussi que des avocats des témoins sont victimes des menaces et intimidations. Autre sujet abordé cette semaine, c'est l'arrestation à Berlin en Allemagne d'Ignace Mouranachaka et Straton Moussoni. Pour le journal La Prospérité, les deux hauts cadres de la Force démocratique pour la libération du Rwanda auraient été, selon le procureur fédéral allemand, les principaux commandants des miliciens Hutus, auteurs de crimes contre des milliers de civils et auraient joué un rôle boulevardier lors du drame humain survenu à la suite du génocide de 1994. Le palmarès de son côté fait remarquer que l'arrestation d'Ignace Mouranachaka et de son adjoint coïncide avec la visite de l'émissaire de Barack Obama dans la région. Pour clôturer cette revue de la presse, le Phare parle de la fin du travail de la révisitation des contrats miniers annoncée samedi dernier par Martin Kabolulu, qui a annoncé qu'après cette révisitation des contrats miniers, la RDC pourra à présent bénéficier de 315 millions de dollars supplémentaires sur 37 contrats jugés réguliers par rapport au code minier. Cependant, le journal Le Phare estime que c'est un chiffre qui est en deçà des réalités du secteur minier, surtout au regard du travail réalisé dernièrement par la commission sénatoriale appelée Commission Mutamba Dibwe.
Merci Samuel pour cette revue de presse. On va faire le tour de table comme d'habitude pour un petit commentaire par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre. On commence par vous, Marcel Ngoï.
Oui, je crois que l'actualité est riche. Riche en ce sens que les journaux qui essayent de s'efforcer de donner la lumière sur ces matières nous donnent l'occasion d'entrer en profondeur par rapport à cette question de révisitation des contrats miniers de plus de 2 ans, un processus qui a beaucoup duré, et en même temps de parler un peu de ces arrestations en termes de dirigeants de FDLR qui sont capturés, quel est l'impact, qu'est-ce que cela peut rapporter par rapport à l'ensemble de la lutte pour la pacification de l'Est du pays. Et je crois que ce sont des éléments importants sur lesquels nous allons nous attarder tout au long du débat.
Monsieur le mandat.
Oui, merci madame. Je crois que ce qui m'importe ici, c'est l'arrestation surtout d'Ignace Mouranachaka, qui est le responsable de FDLR, ce qui est une très bonne chose pour l'aboutissement du processus de paix dans notre pays. Vous savez que maintenant, les FRDC dans l'opération Kimia 2 sont pratiquement seuls depuis le retrait des experts rwandais. Les FRDC traque les FDLR tout seul, mais si on peut déjà couper la tête à ces rebelles qui opèrent et qui sèment la mort et la désolation dans notre pays, dans l'est de notre pays, c'est une bonne, très bonne chose pour le retour de la paix d'abord dans l'est et puis pour l'ensemble de la République démocratique du Congo.
Premier thème de notre tribune de ce soir, dans un rapport publié mercredi dernier, les Nations Unies dénoncent des irrégularités graves dans le procès de Serge Maïché, journaliste de Radio Okapi assassiné à Bukavu en juillet 2007. Nous parlerons aussi de l'an 1 de l'assassinat de Didas Namujimbo, un autre journaliste de Radio Okapi, assassiné le 21 novembre 2008. Les Nations Unies recommandent au gouvernement congolais de condamner publiquement les assassinats et autres graves violations de droits de l'homme commises contre les défenseurs de droits de l'homme. Recommandation faite dans le rapport d'observation du procès en appel des présumés assassins de Serge Maïché, journaliste de Radio Okapi, assassiné à Bukavu le 13 juin 2007. Dans ce rapport rendu public mercredi dernier à la conférence des presse hebdomadaire de la MONUC, le bureau conjoint aux droits de l'homme recommande aussi au gouvernement d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire, y compris de la justice militaire. Dans le même document, des recommandations sont faites au Parlement congolais, au Conseil supérieur de la magistrature et à la communauté internationale. Bertin Toumba du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme revient sur les observations faites lors du procès en appel intervenu à la cour militaire du Sud Kivu du 5 février au 21 mars 2008. Ces propos ont été recueillis par Emmanuel Imbanda.
La cour militaire du Sud Kivu n'a pas démontré sa volonté de rendre justice d'une manière indépendante et impartiale, dans le respect des normes internationales, régionales et nationales en matière de procès équitable. Les procès en appel a, de manière générale, été marqué par des irrégularités similaires à celles observées lors du procès en première instance, à savoir principalement les refus de la cour militaire d'instruire d'autres pistes immobiles crédibles et susceptibles d'apporter davantage de lumière sur l'assassinat ou le meurtre plutôt de Serge Maïché. La persistance des insuffisances des enquêtes pénales, l'absence d'enquêtes indépendantes et impartiales sur les accusations de subornation portées à l'encontre de deux magistrats militaires et enfin un climat d'intimidation et de menaces à l'encontre des avocats de la défense et des observateurs du procès.
Jules Mwamba, vous êtes journaliste à Raga Télévision, c'est une chaîne de télévision privée qui est née depuis Kinshasa. Comment vous réagissez à ces irrégularités dénoncées par les Nations Unies, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme?
Bon, je crois qu'il faudrait qu'on arrive à mener des enquêtes, peut-être mener des enquêtes de façon croisée par des instances compétentes pour arriver justement à éclairer l'opinion sur l'assassinat de notre confrère Serge Maïché. Si la cour d'ordre ne fait pas correctement son travail comme cela est dénoncé ici, c'est regrettable que la cour ne veuille pas rentrer par exemple en profondeur en ce qui concerne l'implication des magistrats qui sont accusés d'être subornés, qu'ils ne veuillent pas aller dans les enquêtes, promettre une enquête indépendante, par exemple, et qu'il y ait des intimidations, c'est regrettable. Bien entendu, notre justice a encore du chemin à faire, il doit encore travailler pour pouvoir être une justice vraiment, vraiment indépendante, même si aujourd'hui on parle de la séparation de pouvoir. Donc c'est une chose vraiment regrettable que les Nations Unies aient pu faire ce rapport-là qui dénonce cette sorte de dilettantisme, si vous me permettez l'expression, d'amateurisme de la cause d'autres militaires.
Martin Goyer, vous êtes éditeur et directeur du quotidien La Prospérité. Vous êtes aussi d'avis que notre justice a encore du chemin à faire, comme vient de le dire Jules Mwamba?
Oui, justement, c'est une justice qui recherche encore son identité. Lorsque vous voyez la cour militaire de Sud Kivu se comporter comme un tribunal, comme une cour partielle, qui n'a pas une certaine élasticité dans le travail qu'on lui demande. Par exemple, la cour va jusqu'à refuser, à rejeter l'expertise balistique qui lui était pourtant proposée par la MONUC. La cour va jusqu'à refuser d'étendre les enquêtes, de pouvoir écouter les arguments avancés par la défense. Donc, la cour place pratiquement les victimes, c'est-à-dire que la partie plaignante, dans des conditions telles qu'il n'y a pas d'espoir pour que le procès se passe de façon équitable. Et le bureau conjoint des Nations Unies, à mon sens, a raison de dénoncer ces irrégularités pour que nous puissions pas, pour que la justice qui sera rendue ne soit pas considérée comme étant une justice juste et équitable. Et dans le cas d'espèce, il s'agit d'un confrère. Un journaliste qui est tué, et je vous dis bien, c'est une plume de moins, c'est une parole de moins, c'est un pan entier de la lumière qui est effacée, qui est supprimée, qui est étouffée. Et je pense que la marche que nous avions effectuée ici à Kinshasa, vers le palais du peuple, si elle a encore un sens, c'est un peu plus pour réclamer la protection des journalistes. C'est vrai, on peut parler de Serge, mais ceux qui sont encore vivants, qui sont le professionnel des médias, qui sont là, vivent dans le même type de conditions. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la situation à Bukavu, les journalistes de Radio Okapi et des autres radios, Maïndéléo et consorts, traversent des moments extrêmement difficiles. Ils exercent le métier dans des conditions extrêmement difficiles. Comment peut-on espérer qu'on puisse rendre justice un jour si ces journalistes-là arrivent à tomber dans le même type de piège? Moi, je pense que la cour militaire a toutes les raisons de se ressaisir. Au vu de toutes les irrégularités qui sont relevées par les bureaux conjoints des Nations Unies, pour que c'est pour rectifier les tirs. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Maintenant que ces irrégularités sont repoussées et même relevées sous l'agora, il y a moyen que la cour se ressaisisse, redresse un peu, arrive à améliorer son travail. Parce qu'elle n'a pas encore, elle ne s'est pas encore prononcée. Vous avez vu ce que la cour a finalement fait, c'est d'acquitter de témoins oculaires de l'assassinat de ces maïsés. Mais ça, les Nations Unies apprécient. Comme pour dire, là où on apprécie, il y a des choses qu'on peut critiquer pour pouvoir améliorer. Pour que la justice que nous espérons tous, la justice à laquelle nous aspirons tous, puisse s'établir en République démocratique du Congo, il faudra que les institutions qui sont en place apprennent à se remettre en question, apprennent à intégrer les critiques et les remarques pour favoriser l'émergence d'une justice réellement équitable.
Monsieur Mamba, le ministre de la Communication et Média, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a réagi à ce rapport des Nations Unies. Il trouve questionnable qu'on puisse renier aux juges leur indépendance. Pour lui, quand une décision de justice est tombée, il vaut mieux la respecter. Si le Bureau de droit de l'homme veut aller en cassation, c'est devant la Cour de cassation et non pas le faire en public comme ils l'ont fait lors de la conférence de presse.
Bon, je crois que dans la mesure où la séparation des pouvoirs est établie dans notre pays, la Cour a le droit de faire son travail. Et le ministre, à cet égard-là, je trouve qu'il a raison, parce que le pouvoir judiciaire est d'être entendu comme séparé du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire doit être libre pour faire son travail, donc indépendante, c'est bien vrai. Et je considère que la réaction du ministre à ce niveau-là est fondée, et que maintenant, il appartient, comme Marcel venait de le dire, à la Cour, à la justice congolaise, en soi, de pouvoir redorer son blason, de pouvoir travailler pour se rendre plus crédible, se rendre plus acceptable et rendre justice de façon équitable. C'est ce qui n'est pas encore fait. Marcel a relevé, par exemple, que la Cour avait acquitté deux témoins. Et ce qui est une bonne chose, parce que ces gens-là pouvaient être condamnés si la justice n'avait pas été dite de façon équitable et impartiale, ils auraient dû être condamnés. Mais bon, là, on trouve que c'est quand même des avancées, donc je suis tout à fait d'accord avec le ministre.
Au sud Kivu, le 21 novembre 2009, la ville de Bukavu se souviendra de l'assassinat de Didas Namujimbo, un autre journaliste de Radio Okapi, tué par balle dans la nuit du 21 novembre 2009. Non loin de chez lui, voici une année déjà, et une année après, aucun procès n'a commencé. Marcel Ngoui.
C'est extrêmement grave, ça. Pour compléter ce que Jules disait tout à l'heure, dans ces pays, lorsque nous parlons d'institutions, nous voyons effectivement des efforts qu'il faudra qu'on établisse, même au niveau même de la séparation du pouvoir. et ce qui n'est toujours pas respecté dans notre pays. Pour revenir au propos du ministre, il y a lieu de relever ici que l'exécutif ne respecte toujours pas forcément ce que le pouvoir judiciaire est établi comme jugement. Si c'est ce que le ministre a dit ici peut être approuvé, comme Gilles l'a dit tout à l'heure, mais il y a moyen de critiquer aussi certaines pratiques. Vous savez que tout récemment, il y a un jugement qui avait été rendu par la Cour suprême de justice, un rapport par exemple parce que le pourcentage octroyé à l'OCC, 3%, mais le gouvernement est revenu pour mettre 2% en lieu place de 3% décidé par la Cour suprême de justice. C'est pour dire qu'il y a à manger, à boire en ce qui concerne l'exécution du jugement. Donc, nous devons, lorsque nous analysons certaines choses, essayer de temps en temps de rappeler, de taper du poing sur la table pour que le gouvernement sache que là aussi, il y avait une décision de justice qui n'a jamais été respectée, on a modifié en conseil des ministres. Donc la séparation du pouvoir doit aussi poursuivre son bon nombre de chemins. Pour revenir à Didas, c'est quand même regrettable, madame, que nous puissions faire une année après sans qu'il y ait aucun procès. C'est regrettable. Et pourtant, et toutes les institutions, l'arsenal juridique du pays est en place. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Nous considérons qu'à ce moment-là, si aujourd'hui il arrivait un malheur à un autre journaliste, à un autre citoyen, un pénible citoyen, que la justice n'a toujours pas encore pris ses véritables marques. Je voulais prendre ici le procureur général à témoin parce que, en fait, toute la justice aujourd'hui, il y a quand même toute une hiérarchie qui est établie. Le procureur, lors de la dernière entrée judiciaire, a promis de redorer le blason de la justice, le blason terri de la justice. Là, il y a un cas d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faut interpeller à l'occasion les ministres de la justice, Luzolo Lobambi, qui doit mettre la main à la pâte, essayer de tout faire pour que la justice se débloque, qu'on organise un procès en bonne et due forme pour établir les responsabilités dans l'assassinat intervenu contre Didas Namujimbo.
Monsieur Lumumba, le ministre réagissant toujours par rapport à l'assassinat de Didas Namujimbo une année après, pour lui, si le procès n'a pas encore commencé, c'est par manque de moyens pour accélérer les enquêtes.
Bon, ça c'est lui qui a dit, c'est le ministre. Il doit avoir des raisons pour l'avoir dit. Le moyen qui manque, quels sont les moyens? Mais quels sont les moyens qui ont été mis en place pour dans le procès, par exemple, de notre confrère Serge Maïché et d'autres procès qui sont tout de même exécutés? Pourquoi doit-on parler de manque de moyens? Qu'est-ce que ça veut dire le manque de moyens? Moi, je pense que c'est peut-être un problème de volonté qui manque, la volonté, je dirais la volonté politique entre guillemets, de pouvoir s'atteler, peut-être un problème d'intérêt aussi. Aujourd'hui, nous parlons de l'assassinat de notre confrère Serge Maïché, et nous nous rendons compte que les Nations Unies se sont impliquées, nous nous rendons compte qu'il y a une commission des Nations Unies qui vient de faire un rapport, donc qui a suivi de très près le déroulement de tous ces procès et qui a fait un rapport pour dénoncer par exemple des irrégularités, parce qu'il y a un intérêt peut-être. Peut-être parce que le confrère faisait partie du groupe du personnel des Nations Unies, mais je pense aussi que le pays devrait aussi essayer d'être responsable. Les autorités de ce pays devraient être responsables pour pouvoir se rendre compte qu'il s'agit de mort d'homme. C'est pas, madame, une chèvre qu'on a tuée, c'est pas une foule qu'on a écrasée, c'est une vie humaine qu'on a supprimée. Et comme le disait Marcel, c'est une plume de moins, c'est une parole de moins qu'on a supprimé, on a intérêt, on ne peut pas prendre les choses à la légère comme ça en disant bon, écoutez, du but en blanc, c'est quelque chose, on n'a pas suffisamment de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'a pas suffisamment de moyens? Nous avons des magistrats, nous avons des parquets, des tribunaux, des cours des tribunaux qui peuvent bien se saisir de cette affaire, lancer des agents, lancer des magistrats, des inspecteurs et chercher à réunir les témoins. Moi, je trouve cette déclaration tout de même un petit peu désobligeante.
Marcel, vous avez une réaction par rapport à ce que le ministre a dit sur le temps pour les débuts du procès?
Oui, mais je considère que le ministre ne peut pas se dessaisir de ses responsabilités. On ne peut pas à la fois lancer l'opération tolérance zéro en termes de nettoyage des écuries de Guyas, en termes d'amélioration des conditions de vie des citoyens, et on ne peut pas aujourd'hui lancer des opérations d'arrestation des ADG, des mandataires publics et consorts, parfois sans beaucoup de preuves, et ne pas aussi consécutivement lancer des opérations, par exemple des enquêtes pour rétablir la vérité dans le cas de l'assassinat d'un journaliste. Non, c'est juste, c'est vraiment injustifié d'affirmer comme ça qu'on n'a pas de moyens. Le pays a les moyens, mais les moyens, on a seulement les moyens pour investir dans des travaux publics mal exécutés. On a des moyens pour donner de l'argent envoyé en bande à cartes, l'argent qui est détourné, et on a de l'argent aujourd'hui pour organiser un procès en faveur d'un journaliste assassiné. Moi, je trouve que c'est insupportable, c'est inadmissible de la part du ministre, tel a été réellement ses propos.
Est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi le fait que le temps que ça prend, que certains témoins puissent mourir ou disparaître?
C'est justement ça. Moi, j'ai craint ce qu'on appelle l'usure du temps. Donc, plus le temps passe, moins l'intérêt apparaît. Donc, les gens ont intérêt là où ils ont des profits bassement matériels et personnels. Et moi, je considère que le ministre ne doit pas se soustraire de ses propres responsabilités.
Jules Mamba, il y a GED et Reporters sans frontières qui ont aussi publié un communiqué conjoint sur l'an 1 de l'assassinat de Didace Namujimbo. Eux, ils parlent de l'immobilisme de la justice militaire congolaise dans ce rapport.
Oui, ça c'est GED. GED a une possibilité de...
GED et Reporters sans frontières.
Reporters sans frontières, ce sont des structures assez outillées, assez compétentes pour pouvoir apporter leur observations, leur expertise sur des situations d'irrégularité, des cas d'irrégularité en ce qui concerne le journaliste. Et si GED, qui est composé de gens que nous connaissons très bien, des personnes qui sont compétentes, Reporters sans frontières estime qu'il y a immobilisme, le mot n'est pas déplacé, c'est un mot qu'ils ont dû utiliser à bon escient après l'avoir bien entendu pesé et sous-pesé, si vous voulez. Donc je pense que c'est une façon d'inciter tout simplement les autres à pouvoir se mettre en branle, se mettre en mouvement pour pouvoir arriver à exécuter, à commencer un procès là-dessus.
Deuxième thème de notre débat de ce soir, arrestation mardi dernier en Allemagne d'Ignacio Mubona Chaka, chef des rebelles rwandais FDLR, le chef des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, a été arrêté mardi dernier en Allemagne. Ignacio Mubona Chaka a été arrêté avec un autre rwandais, Straton Musoni, et devait être présenté le jour même de leur arrestation à un juge. Ils sont soupçonnés d'avoir été des chefs militaires des FDLR ou d'avoir exercé une influence importante sur cette milice qui a tué des civils en République démocratique du Congo, selon le parquet allemand. Pour des zones ancien coordonnateur du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC et actuellement expert consultant sur l'Afrique centrale, l'arrestation d'Ignacio Mubona Chaka est une bonne chose et aura un impact sur les FDLR dont il était le leader symbolique. Il ajoute que cette arrestation constitue un bon précédent pour que les autres pays où les FDLR disposent des ramifications agissent aussi comme les autorités allemandes. On écoute Jason Sturz au téléphone de Freddy Lufulabo.
Je pense que c'est un très bon précédent pour les autres pays parce que ils ont des réseaux dans beaucoup de différents pays. On a documenté des réseaux de FDLR au Congo même, au Mbashi, à Kinshasa, à Bukavu, à Goma, mais aussi en Tanzanie, aussi en France, aussi en Belgique, un peu partout. Donc c'est un bon précédent pour que les autres pays aussi qui hébergent différents leaders et les officiers de liaison FDLR aussi commencent à agir.
Il avait déjà été arrêté par les autorités allemandes. Depuis 2006, il a été relâché. Aujourd'hui, il est arrêté. Qu'est-ce qui a conduit à son arrestation aujourd'hui?
Ça fait plusieurs années que les autorités allemandes suivent un peu les mouvement de dignation à chacun. Ils ont effectivement essayé de l'arrêter, ils ont dû les relâcher parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves. Cette fois-ci, c'est une arrestation sur base d'appartenance à une organisation terroriste. Alors, c'est une nouvelle approche pour le traduire en justice.
Plusieurs réactions après cette arrestation. C'est le cas du gouvernement congolais qui s'est dit satisfait de cette arrestation. Selon le ministre de la Communication et Médias, l'Allemagne répond ainsi à une très vieille requête du gouvernement congolais. La MONUC, de son côté, salue ces arrestations des deux leaders des FDLR et pense qu'elles viennent soutenir l'approche multidimensionnelle qui comporte des aspects diplomatiques et politiques, aussi bien qu'une partie militaire pour persuader les FDLR à se désarmer et à mettre fin à leur présence illégale en République démocratique du Congo. L'ambassadrice du Rwanda en Allemagne a aussi réagi. Elle s'est réjouie aussi de l'arrestation d'Ignace Mubona Chaka et invite aussi les autres pays européens qui hébergent les dirigeants FDLR à suivre l'exemple de l'Allemagne. Jules Mamba, vous, comment vous réagissez par rapport à cette arrestation?
Je suis soulagé, madame, de cette arrestation. Ignace Morena Chaka est à la tête d'un groupe d'inciviques, des gens sans Dieu ni loi, on peut le dire, et qui n'ont d'autre logique que de tuer, de verser le sang, de semer la désolation et la mort auprès des populations innocentes et paisibles, qui ne demandent qu'à cultiver leur champ, des gens de modestes conditions, que l'on va perturber comme ça, que l'on va décimer comme ça, tout simplement parce qu'on a la rage du sang. Madame, je suis content, je crois que tout Congolais ne peut que se réjouir de cette arrestation. Les FDLR sont imputés d'un membre, je dirais, mais bon, je me dis seulement qu'Ignace Morena Chaka est à la tête des FDLR depuis 2005 seulement, mais avant cette date, ce groupe existe depuis longtemps. Ils ont des ramifications à travers le monde, comme vous l'avez dit vous-même. Ils ont des appuis aussi à l'intérieur. Il y a des complicités avec certains compatriotes, probablement, pour des raisons d'intérêt, d'exploitation de minerais, etc. Mais je pense que maintenant que tout le monde, quoi, le gouvernement de la République, qui se réjouit, qui regarde aussi de près, qui suit de près cette situation, va aussi essayer de mettre un petit peu les bouchées doubles pour amener un peu plus de moyens, plus de réconfort moral à l'endroit de nos éléments qui sont sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo, pour leur permettre de continuer de travailler, parce que ce qui est peut-être un petit peu regrettable, c'est que parfois nos troupes qui sont sur le terrain n'arrivent peut-être pas à donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est toujours un problème de problème matériel, etc. Je pense maintenant qu'avec ce qui vient d'arriver, on a du vent en poupe. Je pense que c'est le moment maintenant pour le gouvernement de pouvoir apporter beaucoup plus de soutien, beaucoup plus de réconfort moral à ces troupes, pour que ces FDLR finalement, parce que c'est seulement en 1994 que ce drame, ce cauchemar est venu chez nous, madame. Et avant, c'était pas aussi dramatique que ça.
Et vous pensez qu'avec cette arrestation aura un impact sur les FDLR même?
Mais
ils sont en train d'opérer à l'Est?
Mais naturellement, parce qu'il est établi que Morena Chaka était en contact direct et régulier et quotidien même avec les gens qui sont sur le terrain.
Mais pour votre information, le jour même de son arrestation, les FDLR vont encore attaquer?
Oui, c'est vrai. Ils peuvent continuer d'attaquer parce qu'ils sont sur le terrain, c'est vrai. Mais quand on manque de coordination, cela ne va pas s'arrêter tout brusquement. Ça va aller progressivement, comme ça, décrescendo, jusqu'à ce que, bon, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus personne pour les diriger. La troupe va commencer à accuser de faiblesse et finalement, ce qu'on cherche, c'est les troupes ont des dirigeants, ont des responsables. Les troupes obéissent aux injonctions données par les responsables. Quand les responsables sont pris, sont maîtrisés, c'est fini. C'est la débâcle qui va venir. Ça ne peut pas venir du jour au lendemain, ça finira par venir. Donc je pense franchement que c'est une très bonne chose pour le retour de la paix dans notre pays.
Martin Ngoï, vous vous réjouissez aussi de l'arrestation d'Ignace Morena Chaka?
Oui, moi je crois que ça peut être peut-être le début de la fin. Le début de la fin parce que les FDLR qui sont traqués sur plusieurs terrains, vous avez le terrain militaire à l'est avec les opérations Kinia 1 et Kinia 2. Vous avez la piste judiciaire aujourd'hui, la justice internationale avec l'implication des différents États dans lesquels les dirigeants avaient trouvé asile depuis 1994. Mais il y a le terrain politique. Et c'est là où il faut aussi essayer de creuser. Quelle est l'aspiration fondamentale des FDLR? Est-ce que les FDLR constituent-ils ou tel un dossier congolais? Est-ce que c'est nous, le Congo, qui avons voulu que les FDLR viennent chez nous? Là, il faut interroger l'histoire. Moi, je considère que les FDLR sont venus chez nous à la faveur de la chute ou de la mort de la Byarimana au Rwanda. En 1994, lorsque la débâcle est arrivée, c'est qu'il fallait effectivement, sous pression, que la RDC ouvre ses frontières, que les FDLR viennent ici. Et depuis, ces FDLR, qui sont le Hutu rwandais, ne réclament que deux ou trois choses. La première, c'est qu'il faut un dialogue inter-rwandais et une gestion consensuelle au niveau du Rwanda, de Kigali, et plus tard, l'organisation des élections. Et Paul Kagame n'a jamais accepté d'entendre ces discours parce qu'il colle à ses FDLR l'étiquette des génocidaires, des gens qui ont tué, qui commettent des exactions et consorts. Donc, au-delà de la donne militaire à l'Est, au-delà du terrain judiciaire qui est maintenant heureusement d'être exploré avec l'aide de Berlin et des autres États qui vont s'impliquer. Il faut voir aussi l'aspect politique, c'est la question. Il faudra qu'il y ait aussi une pression, au-delà de tout, une pression sur le pouvoir de Kigali d'accepter un dialogue. Je considère que arrêter une personnalité, un cadre, deux ou trois ou quatre, ne pourrait pas faire disparaître la volonté des Hutus rwandais de retrouver leur terre, la terre de leurs ancêtres. Il faudra que le pouvoir de Kinshasa, de Kigali, arrive à un certain moment à mettre un bémol dans son vin pour accepter ne serait-ce qu'un minimum de négociations, de dialogues au niveau politique. Aujourd'hui, les FDLR sont ici, leurs dirigeants sont neutralisés, ça fait la joie du gouvernement congolais. Mais le gouvernement congolais est en train de saigner à blanc pour rien. L'argent qu'on dépense contre les FDLR, en principe, c'est le Rwanda qui devait dépenser cet argent pour pouvoir traquer ces FDLR et les défenestrer de l'est du pays. Aujourd'hui, ça devient un problème du budget congolais, du seul Congo à faire face à ces exigences d'un peuple rwandais, Hutu, réfugié chez nous, mais qui aujourd'hui fait payer le prêt au plaisir du citoyen congolais.
Marcel, vous voyez que cette arrestation peut avoir un impact sur la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs?
L'arrestation a un sens. C'est un déclic, c'est un signal fort en direction surtout des éléments FDLR qui opèrent sur le terrain. C'est aussi un signal fort qui permet aujourd'hui au FARDC de se requinquer, de retrouver un peu plus de vigueur pour continuer les opérations militaires. C'est aussi un signal fort pour traquer ces dirigeants qui continuent à acheter les armes et à les envoyer sur le terrain, sur le théâtre des opérations. Mais j'ai dit que ça ne va pas épuiser les débats. Pour épuiser les débats, il faut explorer aussi les terrains politiques.
C'est-à-dire qu'il faut organiser un dialogue
aussi, au Rwanda. Il faut aussi, j'ajoute aussi, un dialogue au Rwanda pour permettre la cohabitation interethnique, pour permettre la gestion équilibrée de ces pays-là. Parce qu'on ne peut pas bâtir dans l'exclusion. L'exclusion ne paye pas.
Et seulement, est-ce que cette arrestation peut pousser les autres responsables FDLR à pouvoir se rendre?
Bon, c'est des problèmes, madame. Parce que finalement, chacun a sa conscience et chacun peut décider en âme et conscience de ce qu'il veut faire. Peut-être qu'il peut se trouver des responsables qui estiment que maintenant, avec l'arrestation d'Ignace, bon, la chose est démantelée, c'est la débâcle, il faut se rendre, il faut déposer les armes. Ça, c'est un problème individuel. Hein. Je pense pas que les responsables de l'air à ce niveau-là se concertent pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être bien qu'ils se concertent, j'en sais rien, mais je pense que c'est une option, tout à fait une décision individuelle. Chacun puisse prendre en âme et conscience et décider de ce qu'il va faire. Mais de toute façon, c'est important que ce responsable rwandais, Hutu rwandais, ait été pris, ait été capturé, ait été arrêté en Allemagne. Et cela va certainement amener une modification de donne, même auprès des responsables rwandais. Cela va amener une modification, FDLR, j'allais dire. Cela va amener une modification de donne, parce que c'était un important communicateur aussi, qui avait une très grande influence sur les gens qui étaient sur le terrain, une très grande influence. Maintenant qu'il est parti, en tant que numéro un, c'est tout à fait sûr qu'il faut que les gens ou se réfèrent leur rang pour se réorganiser et trouver un autre responsable, et qui ne sera peut-être pas de la trempe d'Ignace, on ne sait jamais. Donc, je crois qu'il y a une certaine débâcle, du moins une sorte de recul qui va s'opérer dans le chef de tous ces responsables qui sont sur le terrain, qui pourrait amener quelques-uns d'entre eux, pourquoi pas, de pouvoir déposer des armes. C'est une affaire individuelle.
Merci, Jules Mamba. Marcel Goyon, une minute, parce qu'on doit passer au troisième thème. On n'a plus la réalisation, mais au signal qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, moi je dis que les FDLR sont des forces disparates. Les forces disparates qui apparaissent, qui posent des actes et qui disparaissent. Mais ce sont des forces organisées. Bon, imaginez-vous, à un moment donné, le gouvernement congolais s'était allié aux FDLR. Ils sont allés sous la médiation de la communauté Sant'Egidio de Rome, les gouvernements ici, pour traquer, pour faire face à la rébellion. C'était mis ensemble avec les FDLR. Aujourd'hui, il y a un changement des dons parce qu'effectivement, il y a un rapprochement entre Kinshasa et le Rwanda. C'est une très bonne chose qu'on ait capturé la tête, mais ce n'est pas tout. Il y a un certain Calix qui est un porte-parole des FDLR qui est très actif. Il faudra faire très attention. Ce que je suis en train de dire, moi, c'est quoi? C'est que pour vider l'essentiel de frustration, il faudra poser, il faut incruster dans les consciences des dirigeants ainsi que du peuple Hutu que la paix est possible. Il ne faut pas n'est-ce pas, chercher la paix forcément en démontrant seulement que sur le terrain militaire on a été fort. Parce que même quand on a vaincu sur le terrain militaire, il y a toujours des aspects politiques qui restent.
Merci Martin Ngoyi. Fin du processus de réalisation de contrat mignon en RDC. C'est notre dernier thème de ce soir. Selon le ministre des Mines, ce processus va rapporter plus de 300 millions de dollars à l'État congolais avant le début de l'exploitation. Le processus de réalisation de contrat minier est arrivé à son terme après presque 2 ans et demi de travail. C'est le ministre des Mines qui l'a annoncé dans une conférence de presse qu'il a animée samedi dernier à Kinshasa. Martin Kaboulou révèle qu'aucun contrat n'est jugé viable sur les 57 consultés. 37 sont à renégocier et 20 autres à résilier carrément. Il ajoute par ailleurs que la réalisation des contrats miniers va rapporter plus de 300 millions de dollars américains à l'État congolais comme caution avant les débuts de l'exploitation. Les explications avec José de Schwartzminga.
La commission de révisitation des contrats et conventions miniers avait la mission d'examiner les contrats et leur impact sur le développement national. Au total, 57 contrats et 6 conventions minières ont été révisités. La majeure partie entre des tiers et l'État congolais, représentés par la Gécamines, l'Okimo, la Sakima et la Sodimco. À l'issue de la première phase de revisitation, aucun contrat n'a été jugé viable, tandis que 37 étaient à renégocier et 20 autres à résilier carrément. Après tout le processus, presque la majorité des contrats ont de revisiter et renégocier. Selon le ministre de Mines, la RDC va bénéficier de près de 315 millions de dollars. Cela en termes de droits superficiels et de pas de porte. Martin Kaboulou ajoute que la revisitation a permis à l'État de déterminer les réserves des minerais dans les concessions concernées. En plus, les contractants sont obligés de se soumettre uniquement à la législation congolaise et à la construction des infrastructures sociales de base. À ce jour, le gouvernement congolais ne s'est pas encore évalué en termes chiffrés combien l'État et le peuple les Congolais ont perdu dans tous ces contrats que tout le monde s'accorde à qualifier de léonins.
Je vais vous demander d'être bref pour ces derniers thèmes parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. La révisitation, selon le ministre des Mines, a permis de gagner 315 millions de dollars. Cependant, nous savons que le rapport sénatorial de la commission Mutamba Dibu a annoncé en 2008 que la RDC perdrait depuis le début du processus 450 millions de dollars. Est-ce que le chiffre du gouvernement est réaliste, Jules Mwamba?
Bon, le chiffre peut me sembler être réaliste parce que des études ont été menées pour arriver à ces chiffres. Mais ce que moi je salue ici, c'est que maintenant, avant cette révisitation, c'était quoi? Il y avait une sorte de vice de forme. Les partenaires traitaient seuls les dossiers de ces contrats sans que les parties congolaises soient impliquées comme elles. Maintenant, la forme qui va être acceptée, ce sera que les deux parties vont être retrouvées ensemble pour pouvoir discuter de contrats. Et que 315 millions de dollars américains, hein, bon, c'est plein d'argent, mais c'est beaucoup aussi. C'est beaucoup aussi parce qu'on les aurait perdus si on n'avait pas procédé à cette révisitation. Donc, ça me semble réaliste.
Martial Ngoyi, les renégociations avaient pour objectif de détecter toutes les irrégularités et déséquilibres dans ces contrats. Est-ce que selon vous, après 2 ans et demi de travail, on peut se dire que le gouvernement a atteint son objectif?
Bon, en quoi le ministre? Oui, parce que le ministre est satisfait. Et c'est pourquoi il a parlé avec fierté pour dire que voilà, le gouvernement peut gagner 315 millions. Mais moi, je considère que ce montant est faible. C'est un montant très faible au regard de la destruction de l'écosystème, au regard de tout ce qui a été exploité comme minerai. Donc, jusque-là, son rapport aurait dû nous montrer qu'est-ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On gagne, effectivement, on peut gagner les 315 millions. On a perdu quoi? On a perdu beaucoup. Il y a des sociétés dont l'expertise peut permettre, en peu de temps, de réaliser ce que nous, Congolais, nous réalisons dans 5-10 ans. Donc, vous pouvez dire, nous résilions le contrat, alors que ces sociétés-là ont atteint les objectifs en exploitant au maximum et en peu de temps ce qu'elles recherchaient. Donc, moi, je considère qu'on peut avoir beaucoup perdu qui est gagné dans cette démarche.
Est-ce que le secteur minier doit-il rester le secteur clé de l'économie congolaise, Jules Mwamba?
Non, pas du tout, madame, parce que il est établi que les mines, c'est des matières épuisables. On ne peut pas tabler sur le secteur minier en se disant il n'y a que cela. Parce que nous, nous avions le cuivre, nous parlions du cuivre, nous parlions des diamants, etc. Mais aujourd'hui, qu'est devenu la MIBA, qu'est devenu la GECAMINE, vous voyez. Donc, ça serait une aberration que de pouvoir tabler essentiellement sur le secteur minier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres domaines qui peuvent être exploités dans notre pays. On parle de forêts, on parle de l'eau, on parle de pas mal d'autres énergies renouvelables. Il y a beaucoup à faire, il y a à regarder dans plusieurs directions dans notre pays. C'est un pays béni. On ne peut pas tout simplement s'arrêter au secteur minier. Ça, c'est une économie, je dirais, de cueillette, si on peut le dire ainsi. De cueillette, parce que le diamant est là, on va en exploiter, on creuse un trou, l'or est là, on creuse un trou. Mais il faut aller à autre chose, une autre forme d'exploitation. Ce ne sont pas les ressources qui nous manquent.
Il y a un député provincial du Katanga qui a réagi aux résultats annoncés par le ministre de Mines, c'est l'honorable Capitaine Dakaten. Pour lui, il pense que la RDC pouvait gagner plus et que les négociations ont privilégié les intérêts des particuliers plutôt que ceux de la nation.
C'est vrai, on peut toujours, quand quelqu'un allègue ce genre d'accusation, ce genre d'observation, il a toujours une source, il a toujours une raison qui le pousse à le faire. Hein. On connaît les intérêts aujourd'hui dans notre pays. Les gouvernants sont en train de se battre avec l'opération Tolérance Zéro. C'est pour justement amener les Congolais à une gestion saine de la chose. Si on peut y arriver, ça aurait bien qu'on y arrivera. Donc, si ce député a estimé qu'on a plus perdu que gagné, moi je pense qu'il a certainement des arguments qui le fondent à le dire. Au regard de ce que nous avons comme potentialité, quand on parle des mines par exemple, ça c'est vrai. Mais moi je me dis que c'est un début. C'est un début, il ne faut pas se mettre en mal pour ça. Parce que si déjà on peut arriver à ce résultat, à mettre 315 millions de côté, c'est un début. Ça va nous permettre, comme ça, quand même, d'avancer et de gagner encore davantage, pourvu que l'on garde la même logique de pouvoir revenir sur ce qui est fait pour le faire correctement.
Réhabiliter 57 contrats en 2 ans et demi, c'est pas trop 2 ans et demi, Martin Goué?
Oui, mais ce que je dis, il y a une certaine légèreté dans le traitement des dossiers de la République. Pendant les 2 ans et demi, le ministre et son cabinet ont été payés, les experts ont été payés. Donc, les frais occasionnés par ce travail, ce sont extrêmement importants pour le budget, au niveau du budget national. Donc, en 2 ans, pour sortir ces rapports, je crois qu'on a plus de temps. Mais ce que je voudrais dire, que vous avez posé une question ici, est-ce que l'agriculture,
le secteur minier,
j'ai dit non, il y a l'agriculture, il y a beaucoup de choses. Il a suffi qu'on vende un peu de courant au Congo-Brazzaville pour que ça rapporte 32 millions de dollars. Les 32 millions qui avaient fait parler d'eux à l'époque. Il suffit qu'on exporte notre courant vers l'Afrique du Sud, vers le Zimbabwe, pour qu'on ait des moyens. Il suffit qu'on puisse moderniser l'agriculture, qu'on puisse, n'est-ce pas, industrialiser notre système de pêche, pour que nous puissions aujourd'hui nous développer. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire grâce à la diversification des secteurs dont dispose la République démocratique du Congo en exploitant au mieux les ressources naturelles et du sol et du sous-sol, bien de la nature, qui sont pratiquement les dons de notre de Dieu, quoi. Nous sommes une nation bénie, je l'ai dit.
Merci Marcel Ngoyer. Je rappelle que vous êtes éditeur et directeur du journal La Prospérité. Merci aussi à vous, Jules Mwamba, d'avoir participé à cette émission. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Alain Roux qui a réalisé pour vous cette émission. Assisté de Samuel Kachak sur la supervision de Marcel Soubouchangwe. À la technique, Jean-Claude Tiala au micro qui est d'une côté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon week-end à vous et bon suite de programme sur la fréquence et la paix. Thank you.
Oh, Kathy.